7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
7 milliards de voisins et de voisines, bienvenue à tous. Suffit-il d'avoir de bons diplômes pour réussir sa vie professionnelle et décrocher un job? Ou c'est le réseau qui reste indispensable pour s'insérer dans le monde du travail? Think tank, club de networking, ils sont à la mode et ont de plus en plus de succès. Alors comment intégrer ces cercles souvent privés, élitistes? Comment se constituer un réseau professionnel en partant de rien? Comment l'entretenir et le développer? C'est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre avec nos invités. Tout d'abord, et c'est le seul homme, donc nous commençons par vous, Fabrice Zera, vous êtes président d'UBI Solutions et auteur de Réussir en France sans diplôme, sans argent, sans réseau, du chômage à la French Tech, aux éditions François Bourin. Bonjour et merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes enrhumé, vous avez fait l'effort de venir tout de même.
Bonjour.
Bonjour. Solange Siyandje, vous êtes avocate, vice-présidente du club Efficience qui a édité le Gotha Noir. C'est un guide mondial de l'élite afropéenne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci.
À vos côtés, Samira Djouadi, vous êtes déléguée de la Fondation TF1. Vous revenez du Niger. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Christelle Defoucault, vous êtes conférencière et auteure notamment de 50 erreurs à éviter pour trouver un job, ainsi que déjouer les pièges des recruteurs, tous deux sortis aux éditions Erol. Et je sais qu'à la rentrée, vous allez vous sortez un nouveau livre, donc félicitations, vous reviendrez pour nous en parler. Et vous partez à Abidjan dans 2 heures pour le Young Job Network Forum. Merci infiniment d'avoir fait l'effort d'être avec nous ce matin.
Merci à vous, Samira, de m'accueillir.
Merci. Et vous aussi, les voisins et les voisines, venez vous exprimer en direct à l'antenne. Le réseau, le networking est-il essentiel à la réussite professionnelle? Dites-nous si vous entretenez votre réseau. Parlez-nous de votre expérience, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 ou laissez-nous vos messages sur WhatsApp. Alors justement, des messages sur Facebook, nous en avons pas mal ce matin et vous pouvez faire mieux, hein, les voisins. Nous avons un message de Diaby qui nous écrit de Bamako. Il vaut mieux des relations qu'un diplôme. Si ton papa n'est pas docteur, tu ne peux pas être infirmier. Jeff de Goma nous écrit « Un bon réseau, c'est aussi valable qu'un diplôme pour accéder à une opportunité professionnelle. Cependant, ce qui m'intrigue, ce sont les règles qui régissent ces réseaux. En RDC, par exemple, c'est le critère ethnique qui prime pour être intégré dans le circuit en dépit de tout le talent qu'on peut avoir. »
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Alors, et aujourd'hui, on dit quoi? Est-ce qu'on est tous d'accord? C'est une évidence, le réseau, ça booste une carrière? Oui ou non? Christelle?
Alors, à l'heure actuelle, je pense que le réseau est essentiel. Ce n'était pas le cas à mon époque, je suis un peu une vieille. Quand on cherchait du travail en 87, c'était beaucoup plus facile. On répondait aux offres d'emploi et on trouvait facilement à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut du réseau et je pense surtout qu'il faut être sur les réseaux sociaux.
Ah, c'est dit. Vous, Fabrice, vous êtes d'accord? Même si vous êtes parti un petit peu sans réseau, on est d'accord?
Le réseau est essentiel, c'est assez évident. Mais là, mon parcours et mon témoignage, c'est de dire que sans réseau, parce que je venais d'un milieu médical et absolument pas dans le milieu de l'entreprise, on peut se le créer soi-même, on peut partir de zéro et se le créer soi-même. Donc, ce n'est pas une fatalité de partir sans réseau.
Ce qui est intéressant à dire, c'est que vous, quatre ici, vous avez créé votre propre réseau, puisque vous partiez à la base, tous les quatre, sans réseau. Solange?
Alors, je partage ce point de vue. Effectivement, on peut partir à mon sens, au début, très peu de gens ont un réseau et ils doivent le constituer. Moi, aujourd'hui, j'appartiens à un réseau, donc je ne peux qu'en dire les bienfaits. Donc, le réseau est nécessaire, à mon sens, pour avancer, même si le réseau ne suffit pas. Mais aujourd'hui, ça devient indispensable.
Vous appartenez à un réseau que vous avez constitué vous-même, comme vous, Samira Djaoudi?
Effectivement, donc le Club Efficience, qui est une organisation de la diaspora, aujourd'hui suivie par près de 100 000 personnes. Donc effectivement, c'est un gros réseau.
Samira Djouadi, Vous aussi, vous avez lancé votre propre réseau, mais au départ, vous n'en aviez pas.
Ah bah, au départ, je n'ai rien du tout, aucun réseau, ni familial, ni de proches. Donc j'ai tout construit. Alors oui, je dirais les bienfaits de ne pas avoir de réseau, c'est que ça forge aussi la personnalité des personnes qui sont obligées, coûte que coûte, de s'en sortir. Donc forcément, ça nous construit aussi. Et souvent, je dis heureusement, parce que on mesure aussi l'importance de tout ce qu'on va après mettre en place, parce qu'on sait qu'on a été le chercher avec toute son énergie. Mais bon, ça demande d'une énergie de dingue, ça demande de la niaque aussi, de la persévérance, parce que c'est beaucoup de refus pour une transformation, mais après 50 000 refus. Mais je dirais, est-ce que c'est pas ça aussi le côté positif aussi? Mais en même temps, voilà, aujourd'hui, nos sociétés, et en plus, de plus en plus avec le digital, etc., le réseau devient de plus en plus indispensable, mais on peut se le créer.
Le réseau fait gagner du temps, clairement.
Exactement.
Alors, nous allons gagner du temps et écouter tout de suite nos auditeurs, puisque nous en avons en ligne. Et on voudrait savoir justement si pour eux aussi c'est une évidence. Est-ce que le réseau booste une carrière? On y va.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Uriel, bonjour. Uriel, vous nous appelez du Bénin. Bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour Uriel, bienvenue. Alors, bonjour. Le réseau pour vous, c'est fondamental?
Allô?
Oui, on vous écoute très bien Uriel. Est-ce que c'est fondamental pour vous, pour booster votre carrière, pour vous lancer?
Absolument. Absolument, c'est fondamental, parce que sans réseau, on ne peut pas faire quelque chose. C'est possible.
Et vous, vous en aviez un ou vous avez dû vous le constituer vous-même, comme nos invités?
J'étais obligé de le constituer moi-même, parce que très tôt j'ai compris que si tu ne connais personne, tu ne peux rien faire. Si tu ne connais personne dans un secteur donné, tu ne peux pas aller dans ce secteur d'activité et évoluer facilement. Donc, il faut forcément des relations pour évoluer, et ça se passe aujourd'hui partout.
Et vous, vous travaillez dans un milieu où c'est compliqué de ne pas avoir un réseau, c'est ce que vous dites, vous travaillez dans le milieu du marketing.
Oui, moi je fais du marketing de réseau. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur partout dans le monde et aussi au Bénin. Et je prends exemple sur ce système de marketing pour forger ma propre carrière et aussi informer les autres, les jeunes, de l'importance du réseau. Parce que tu fasses du marketing de réseau ou pas, que tu sois dans de la vente conventionnelle ou que tu sois un administrateur ou que tu sois un jeune en formation, tu as forcément besoin de contacts, tu as forcément besoin de relations pour peut-être avoir des stages dans une banque ou bien dans une institution internationale. Il faut que des te recommandent, il faut que tu aies et des contacts dans un secteur d'activité donné pour avoir des opportunités d'affaires. Et c'est comme ça que ça se passe.
Donc c'est important pour commencer, pour débuter une carrière et puis développer ses affaires. Merci infiniment pour votre témoignage, Uriel. Maintenant, nous allons entendre le témoignage de Carlin, qui nous appelle du Gabon. Bonjour Carlin.
Bonjour Samira.
Carlin, je sais que la présence de Christelle est très importante pour vous. Vous allez nous raconter un petit peu. C'est comment, pardon?
C'est comme un témoignage, en fait, que je vais faire.
Dites-nous.
J'ai appelé à l'émission du 7 février.
Oui.
Qui portait sur comment construire un projet professionnel. Et après avoir présenté ma situation, après avoir présenté mes diplômes, Christelle de Foucault et Marie-Camille Busselot, si je me rappelle, ont conseillé de développer un réseau, d'essayer de contacter des personnes, surtout sur les réseaux sociaux. Et là, je suis allé sur... sur LinkedIn. Déjà, je ne l'avais jamais fait. Hein. C'était la première fois que je suis allé sur LinkedIn. J'ai fait la connaissance d'un monsieur Paul, après avoir partagé quelques messages avec lui. Voilà, il m'a dit que mon profil le plaisait bien. Il m'a appelé dans son bureau un jour. Et là, on a pris rendez-vous, je suis allé, il a pris mon CV. Et quelques jours après, il m'a appelé pour me dire que si j'étais intéressé par un stage... Enfin, chez Total, c'est une multinationale.
Donc, j'ai dit oui, ça donc grâce à ces conseils et à ces contacts, vous avez pu décrocher votre stage?
Oui. j'ai pu décocher le stage. Le stage était à l'origine de 2 mois, mais j'ai fait 2 mois. Après, on m'a demandé si je pouvais prolonger. J'ai accepté. Et bon, par exemple, aujourd'hui, je suis de repos parce que je sors d'une mission en Guinée équatoriale dans un autre pays, en fait.
Donc vous voyagez et beaucoup.
Voilà, enfin, j'ai fait 2 pays déjà. Mm-hmm. Et c'est un peu moi qui voulais faire de la diplomatie. Juste en suivant les conseils, je vois, vous voyez que le réseau, c'est quelque chose d'important. Et merci à Christelle de Foucault, en fait.
Et merci également à vous, Carlin, pour votre témoignage. Et bonne suite, alors, du coup. Bonne chance pour
merci.
La suite. Christelle.
Oui, bonjour Carlin. Je suis vraiment ravie que ça ait fonctionné, puis surtout que vous nous ayez pris au mot et que vous l'ayez tenté. Et je confirme notamment la puissance du réseau LinkedIn. Surtout continuez tout au long de votre carrière à le faire. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vous vous connectez avec lui sur LinkedIn et je suis sûre que vous ferez de très belles autres rencontres professionnelles. Et puis, merci vraiment d'avoir pris la peine de ce témoignage. Ça me touche beaucoup.
Tout à fait. Merci beaucoup, Carlin, de votre témoignage. Vous êtes Christelle de Foucault, l'experte des techniques de recherche d'emploi. Là, c'est un témoignage concret. J'ai vu votre LinkedIn et franchement, je dois avouer que vous dites que vous êtes âgée, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous êtes très, très active. Vous avez plus de 70 000 abonnés. Ça va vite. Vous publiez, vous échangez. Le réseau est très vivant.
Le réseau est très vivant et je suis la preuve vivante que même à un certain âge, enfin, c'est ouvert, le réseau peut se pratiquer à tous les âges, quand on est jeune, quand on est plus âgé. Alors souvent les jeunes me disent « Ah ben non, moi je vais pas aller sur LinkedIn, c'est un réseau de vieux ». Et c'est vrai que c'est un peu un réseau de vieux parce que les gens ont en moyenne 44 ans sur LinkedIn, mais quand on est jeune et qu'on cherche un stage ou un emploi, il faut se mettre en contact avec des personnes plus âgées. Et donc ça, c'est pour les jeunes. Et puis pour les gens comme moi, même qui sont hermétiques aux réseaux sociaux, franchement, on peut être sur ce réseau très facilement. Je n'ai même pas un compte payant. Moi, je n'ai pas de compte. Voilà, je ne suis pas premium et j'ai 70 000 abonnés. Personnellement, ça me permet de donner beaucoup de conseils bénévoles.
Vous allez nous parler du forum tout à l'heure, mais avant j'aimerais avoir votre parcours, Fabrice Zera. Vous le racontez d'ailleurs dans ce livre du chômage à la French Tech, réussir en France sans diplôme, sans argent, sans réseau. Quand vous entendez ces témoignages, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Puisque vous avez commencé sans réseau, vous avez réussi sans réseau et vous vous en êtes constitué un au fur et à mesure.
C'était démarrage de rien, c'est
succession de petits échecs.
Succession, beaucoup d'échecs. Donc, un entrepreneur doit savoir se relever. Mmh. J'en parle beaucoup dans le livre.
Des déceptions aussi. Hein.
Beaucoup.
De trahison.
De trahison avec un certain client, évidemment, oui. On en parle. Donc, si on reparle de ce client-là, également, 4 ans plus tard, on a dû repartir de zéro parce qu'on avait un client qui faisait 80% de notre chiffre d'affaires qui est parti du jour au lendemain.
C'est intéressant. Hein, votre livre, il est très, très simple, très intéressant. Et surtout que ce client, on ne va pas l'évoquer, mais on comprend beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'il y a un système un peu révolutionnaire dans ces magasins qu'on connaît. Et c'est vrai qu'on se dit « Ah, c'est lui !» Et c'est vrai que l'histoire avait un peu mal tourné. Bon, c'est un peu de suspense pour que les gens aillent lire le livre.
Pour voilà, on a développé une caisse intelligente qui a été révolutionnaire. Donc tous les articles ont une puce et quand on les pose dans la caisse, tout est identifié automatiquement et on paye.
C'est un système qu'on voit un peu partout maintenant dans les
grandes. On commence à voir de plus en plus qui se démocratise.
Ouais.
Donc on l'a créé, on nous l'a copié et puis. On a dû, 4 ans plus tard, à la création de la boîte, repartir à zéro et se repenser. Donc ça fait partie des échecs d'un entrepreneur et de savoir se remettre en question en permanence.
Mais à la toute base, vous vouliez être dentiste, ça n'a pas marché. Vous rentrez dans une start-up, vous commencez à travailler en tant que stagiaire et très vite, vous vous passionnez pour les nouvelles technologies.
Exactement.
Ou les objets connectés.
Voilà, c'est l'Internet des objets. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est à la mode. Moi, quand j'ai commencé à 15 ans, je passais pour un extraterrestre. Mais j'étais passionné par ces technologies-là. J'avais vraiment conscience qu'elles allaient révolutionner le monde. Là, on parle de 100 milliards d'objets connectés dans les prochaines années.
Donc, vous participez, malgré votre jeune âge, vous mettez des billes, clairement voilà. De l'argent, vos économies.
J'ai mis toutes mes économies. La société a déposé le bilan. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé au chômage. Donc, étant au chômage, j'ai continué à travailler. J'ai continué à chercher des nouveaux clients. Et j'ai trouvé ce client-là et qui m'a permis de monter au départ, de créer Ubi Solutions.
Mais il y avait quand même un réseau, puisque vous aviez commencé à travailler avec certains clients, vous aviez déjà fait des démarches.
Je m'étais fait mon réseau en tant que commercial.
En tant que commercial, jeune commercial, et vous êtes basé quand même sur ce réseau-là, que vous aviez créé vous-même.
Oui, c'était un commercial qui démarre, se fait son propre réseau, et j'étais très jeune, hein, j'avais 23 ans, j'ai créé la société à 27, C'est ce travail de commercial, je parcours à peu près peut-être 20 fois le tour de France par an. C'est énormément de déplacements, énormément de rencontres qu'on doit provoquer pour se créer ce réseau aussi bien commercial que réseau de partenaires. Mmh. C'est aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé aussi par rapport à il y a 10-15 ans, c'est les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus accessibles, qui nous permettent d'adresser plus facilement des gens. Et beaucoup plus de masse. Ça, c'est assez nouveau et c'est beaucoup plus facile.
Mais quand on lit votre livre et qu'on regarde votre parcours, on se rend compte que le réseau est peut-être plus important que les diplômes eux-mêmes. Solange, vous êtes vice-présidente de ce club, Efficience. Est-ce que c'est un constat que vous faites ? Vous-même, vous n'aviez pas de réseau à la base, vous avez dû vous en constituer un. Est-ce que c'est vrai que... D'ailleurs, il y a des jeunes qui ont des diplômes mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi.
Alors, je pense que le diplôme est important, surtout en France. Hein. Je pense qu'on est un des pays qui met le plus en avant les diplômes. Plus on en a, mieux c'est. Mais ça ne va pas forcément vous aider à décrocher votre premier job. Parce que quand vous arrivez, on vous demande... on demande de plus en plus d'avoir de l'expérience. Mm-hmm. Et un jeune qui commence n'a pas d'expérience. Donc, on vous dit, vous avez des diplômes, mais pas d'expérience. Donc, ça devient très compliqué, en fait, de trouver son premier emploi. Parce que, en plus, vous êtes face à des gens qui, finalement, ont un an de plus que vous, de diplômes, etc. Donc, c'est compliqué. Je pense que le réseau... Alors, votre livre qui parle de réussir sans réseau, c'est ça, c'est le titre. Finalement, quand on vous écoute...
Sans diplôme et sans argent.
Voilà, on comprend quand même que vous avez utilisé un réseau, le vôtre, vous l'avez constitué.
On l'a créé, oui.
Voilà, donc quelque part, ça rejoint, je dirais, le thème de ce jour, qui est que le réseau est important. Et le Club Efficience, qui est un réseau d'entrepreneurs et de cadres de la diaspora, justement, a été créé en se basant sur ce constat, voilà, qui est important. C'est que le fait de rencontrer d'autres personnes à un niveau de carrière plus élevé que vous, ils peuvent vous aider, en fait, à propulser votre carrière.
Et c'est un facilitateur.
Le réseau, est un accélérateur de carrière. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je pense que très peu de gens vont dire le contraire, parce que
vous nous parlerez un peu plus tard des activités de ce club et si tout le monde peut finalement en faire partie. Et Samira Djouadi, pour accélérer une carrière, il faut déjà se projeter. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout fait toute seule, vous arrivez à la fondation TF1, vous créez vos propres programmes et en fait, vous offrez la possibilité à des jeunes de 3e, c'est pas le seul programme que vous avez évidemment que vous mettez en œuvre, mais vous savez qu'il faut leur mettre le pied à l'étrier. Donc le premier stage, le stage des enfants, donc en 3e, vous les aidez à trouver un stage. Pourquoi c'était important, en fait ? Est-ce qu'ils ont déjà conscience, à cet âge-là, qu'il faut se constituer un réseau ?
Alors, non, je pense qu'ils ne sont pas conscients, à part ceux qui ont la chance de vivre dans un environnement très, très, très positif et qui ont compris que papa et maman étaient leur réseau. Malheureusement, ces jeunes qui sont souvent, en tout cas notre cible, ce sont les jeunes des quartiers, qui, ce fameux stage dont vous parlez, qui est le stage de 3e, à qui on demande à ces gamins en 3e de faire ce stage pour au moins les aider à choisir leur orientation future. Et quand on sait que ce stage ne tient qu'au seul réseau qui est le réseau, parce qu'à 14 ans, quel est ton réseau ? C'est papa-maman. Alors quand t'as papa et maman qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas un boulot sexy, eh ben, la probabilité pour trouver un super stage, elle est plus que négative. Donc ils sont condamnés à quoi ? Au stage kebab. Donc le stage par défaut, le stage dont ils n'ont pas choix parce que sinon ils ne passeront pas
c'est
en seconde.
C'est quoi le stage kebab,
le stage kebab, c'est le stage local. C'est le mec chez qui j'achète mon kebab qui sera super content que j'y suis parce qu'en plus mes potes vont venir acheter leur kebab. Et puis je vais nettoyer les tables. Alors je ne dis pas que c'est pas important et tout, mais est-ce que c'est ça le stage pour permettre à nos enfants de se projeter demain vers des études, vers un métier qui va leur permettre de s'en sortir.
Donc et vous leur permettez de sortir de leur environnement.
De leur environnement,
et de
parce
découvrir
que,
autre chose.
Exactement, parce que ce sont des jeunes où la problématique de la mobilité est très très importante, parce qu'on a des parents qui ne veulent pas que leurs gamins sortent des quartiers. Mmh. Ils ne sont pas habitués à sortir de leur quartier, alors qu'on sait très bien que les réseaux de télécommunications sont hyper accessibles. Ces gamins qui habitent en banlieue, voire en Seine-Saint-Denis, ne vont jamais sur Paris, parce qu'on ne leur a pas appris à prendre les transports, etc. Et donc, on a, grâce à cette association qui s'appelle Tous en Stage, qui est un réseau d'entreprises que j'ai créé avec aujourd'hui 102 entreprises, de leur permettre de faire un super stage. Donc, j'ai transformé la discrimination en quelque chose de positif, en disant, bah, nous, on va réinventer le stage de troisième, nous, les entreprises, parce que le problème, il est aussi chez les entreprises, qui ne prennent pas ces jeunes-là parce qu'ils ne les connaissent pas. En général, on prend qui ? On prend les enfants des collaborateurs, et quand bien même on les prend, on leur dit, tu te démerdes avec ton gosse. Donc, super, le stage de troisième avec papa, maman, déjà qu'on les voit toute la journée. En plus, il faut faire le stage. Donc finalement, personne est heureux de ce stage de troisième. Et donc, le concept est simple, c'est que l'idée, c'est qu'on fait du stage collectif inter-entreprise. Collectif parce que le collège nous sélectionne une vingtaine d'élèves à chaque fois. Et inter-entreprise, c'est qu'au lieu de prendre ces 20 élèves toute la semaine dans la même boîte, eh ben, j'ai mutualisé la semaine avec plusieurs boîtes. Donc chaque jour, je vous donne un exemple, le lundi, ils vont chez TF1, le mardi, chez Auchan, le mercredi, chez Microsoft, le jeudi, chez Schneider. Et le vendredi, on les coach pour leur apprendre à faire de la prise de parole sur ce qu'ils ont vécu pendant la semaine, ce qui leur permet aussi de se projeter sur leur oral du stage.
Donc, Samira Djouaidi, comment est-ce qu'on arrive à fonder et à créer la fondation TF1 quand on était sportive à la base, prof de sport, et qu'on n'a pas de réseau ?
Eh ben, comment on arrive à fonder cette fondation ? C'est ben, tout simplement parce que je pense que c'est aussi toute l'énergie et l'agnac que j'avais de se dire c'est pas parce que je suis née dans un quartier en Seine-Saint-Denis que la fatalité doit se poser sur ma tête. Donc oui, alors on peut être issu. Moi, j'ai des parents qui étaient ouvriers. Ma mère était femme de ménage. Mon papa était ouvrier. Aucun réseau, ne comprenait même pas les études que je faisais, déjà
ils
pour commencer. Ils venaient du Maroc, ont quitté leur pays. Je suis pas sûre que moi, j'aurais été capable de le faire.
Hein. De tout reprendre à zéro.
Reprendre à zéro, construire autour de soi quelque chose. Et puis surtout, je pense que le fait d'avoir vécu dans cette cité, ça m'a donné aussi l'envie de se dire pourquoi nous on est condamnés à ça, quoi. Mmh. Alors ouais, il faut avoir une énergie plus que les autres, parce que souvent on est dans le fatalisme, on est dans la victimisation, etc. Et donc j'ai construit ma vie comme ça. Et puis un jour j'ai créé une association qui s'appelle Sport à vie. Donc c'était un jeu de mots, on se disait à un moment donné, ok, c'est super, vous avez des soucis, vous êtes des victimes et tout, mais il faut être aussi acteur de sa vie. Voilà, c'était... Et j'ai eu la chance à l'époque de... Peut-être que j'étais visionnaire sans le savoir, quoi qu'il arrive. Hein. Je m'étais dit, le super partenaire pour moi, je parle des années 2000, où on ne parlait pas de diversité, on ne parlait pas les banlieues, il faut les aider, machin, etc. C'était d'aller voir le président de TF1 à l'époque, qui était Patrick Lelay, quand on connaît le personnage, et de lui demander d'être partenaire. Alors... Sachez que toute la terre entière m'a dit que j'étais folle en me disant arrête de te prendre, tu crois pas qu'il va t'ouvrir la porte. Alors j'ai mis 6 mois à avoir un rendez-vous parce que je suis tenace et que je faisais de l'endurance à l'époque. Il a fini par me recevoir, mais plus pour me dire non. Au finalement, se retrouvant face à moi, il s'est dit waouh, celle-là, elle a du cran. Et il a été partenaire de mon association. 19 ans après, TF1 est encore partenaire de mon association. Et puis un jour, il est pas con, il m'a débauché, quoi. Il m'a débauché en me disant, écoute, Samira, toute ton énergie, tu vas venir la mettre chez nous. Mais pas pour faire du social, c'était pour faire du commercial. Je lui ai dit, mais t'es complètement dingue. Donc, et puis en même temps, j'avais envie de lui dire oui, parce qu'il a cru en moi aussi. Donc j'ai accepté, mais j'ai vendu, j'ai fait un deal en lui disant, il n'y a pas de fondation, je veux créer la fondation qui a aussi un objectif particulier, parce que en la créant, j'ai voulu qu'elle s'occupe des jeunes des quartiers.
Donc la fondation s'occupe des jeunes, de leur insertion.
Exactement, l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, on a formé des journalistes qui sont des jeunes des quartiers qui jamais auraient rêvé d'abord de rentrer à TF1, encore moins être à l'écran. Et aujourd'hui, on a créé des générations de journalistes qui aujourd'hui sont brillantissimes, parce qu'on a su les accompagner et surtout on a su leur dire « Hey, t'es aussi bon que n'importe qui. Alors oui, on part pas de la même ligne de départ, mais t'inquiète, on va faire en sorte de donner tous les outils pour réussir.
Donc vous n'avez pas fait que susciter des vocations, on sent hein, l'énergie. Christelle, Samira a dit quelque chose de très important aussi, c'est que les entreprises ont aussi besoin de ces jeunes, mais ils ne les connaissent pas. Et vous, c'est tout votre travail autour des réseaux sociaux, expliquer aussi à ces jeunes qui sont souvent diplômés de se faire connaître, d'aller et rencontrer ces entreprises, ces chefs d'entreprise.
Alors je rejoins Samira dans son idée de il faut toujours oser, il faut oser, il faut se prendre des portes, il faut passer par la fenêtre et puis la cheminée, puis se brûler, recommencer. On ne risque rien à oser. Par contre, il faut le faire de façon humaine, c'est-à-dire avec du respect. Il ne faut pas approcher les gens brutalement, d'où qu'on vienne et qui que ce soit. Il faut les approcher avec beaucoup de respect, de politesse. Et les portes s'ouvrent. Et je trouve en tout cas que grâce aux réseaux sociaux, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Et c'est un peu l'idée du forum qui est organisé actuellement en Côte d'Ivoire, c'est de mettre en relation ces jeunes, ils sont quand même 5000, avec des entreprises de Côte d'Ivoire.
C'est le Young Job Network Forum.
Voilà, et il est né de l'idée d'un jeune homme de 28 ans qui lui a osé.
Yann Cédric Lehoré.
Voilà, donc le président s'appelle Yann Cédric Lehoré.
Et lui, il a osé vous contacter.
Il a osé me contacter
sur LinkedIn.
Alors, il m'a contacté sur LinkedIn, il est ivoirien, il savait que j'avais vécu toute ma vie en Côte d'Ivoire et que c'était mon pays de cœur. Et il m'a dit, si un jour j'ai le projet de faire dans 6 mois un énorme forum pour mettre en relation des jeunes et des entreprises, parce que je voudrais que les jeunes Ivoiriens restent en Côte d'Ivoire. Et je voudrais qu'on reste en Afrique, on a de très belles richesses en Afrique et on doit tous ensemble trouver des solutions pour développer l'Afrique. Si je fais un forum, est-ce que vous acceptez d'être la marraine et est-ce que vous acceptez de me faire de la publicité? Moi j'ai dit oui, sachant que... Et est-ce que vous reviendriez en Côte d'Ivoire 36 ans après votre départ? J'ai dit oui, en me disant mais il réussira jamais. Il avait 2000 abonnés sur LinkedIn, il en a presque 20 000. Il a contacté la terre entière et il a réussi à rassembler des grands patrons d'Afrique.
Et là, vous attendez 5 000 jeunes.
Donc là, je peux vous dire exactement, oui. On attend 108 panélistes qui vont être des panélistes, des conférenciers, des formateurs de 22 nationalités. 5 000 jeunes sur 2 jours et il y aura plus de 100 postes qui sont proposés. Et quand il l'a fait l'année dernière pour la première fois, il y avait 1000 personnes. Donc là, maintenant, on est à 5 000. Nous étions 30 formateurs et conférenciers de 4 nationalités. Maintenant, c'est 22 nationalités. Donc les gens de toute l'Afrique sont venus et d'ailleurs. Et c'est 2 jours d'échange où on va justement mettre en contact ces jeunes avec les entreprises pour apprendre à mieux communiquer.
Fabrice, cette énergie, cet engouement, le fait de faire concrètement, vous reconnaissez bien là.
C'est également, le propre c'est ce que... de l'entrepreneur, c'est-à-dire il faut prendre les devants, il faut essayer, tenter, ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, c'est vraiment le mot échec hein, qui est important et surtout se relever, tomber 10 fois, se relever 11 fois. Pour moi, c'est la définition de l'entrepreneur. Et se créer le réseau, c'est taper à la porte. Je rejoins Christelle, hein, c'est vraiment toujours être poli, humble. Il y a des façons de faire aussi. Si on fait de la masse et en étant très agressif, c'est compliqué. Il faut se créer le réseau.
L'humain est très important.
Voilà, l'humain est très important. Il faut se créer le réseau sans demander quelque chose.
Mais il faut une stratégie aussi.
Il faut le faire simplement, humblement, sans demander quelque chose. C'est surtout sans demander quelque chose.
Alors tout à l'heure, vous allez nous donner des conseils, hein, parce que c'est très difficile de faire du réseau sans faire trop de rentre dedans, sans demander quelque chose et en même temps être compris. J'imagine que nos auditeurs sont un peu perdus, ils veulent en savoir un peu plus. On va écouter un peu de musique et on revient sur les conseils. Got mountain bills you need to pay. No time to play. There's no such thing as a self-made man. As a self-made man, enjoy the flow. Self-Made Man de Morsheba, une chanson qui a du sens et qui rappelle un petit peu vos parcours, hein, puisque vous avez tout fait tout seul, même si aujourd'hui vous avez un sacré réseau, n'est-ce pas?
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Alors justement, comment se constituer ce réseau? Vous aussi, les voisins et les voisines, vous pouvez vous exprimer en direct à l'antenne. Le réseau, le networking est-il essentiel à la réussite professionnelle? Je vous rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71 ou sur WhatsApp via vos messages. Comment peut-on se constituer un réseau efficace? Christelle, vous voulez commencer ou Fabrice?
Alors je voudrais rebondir.
Christelle de Foucault.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Fabrice parce que je le rejoins complètement dans l'approche du réseau. Il ne faut pas toujours tout de suite demander. Et un des grands secrets du réseau, c'est d'accepter aussi de donner avant de recevoir. C'est-à-dire que si on est, en tout cas sur les réseaux sociaux, si on approche les gens très brutalement, je veux un stage, je veux un emploi, pouvez-vous m'aider, etc.
Ça peut faire fuir. Hein.
Ça peut faire fuir et on ne s'intéresse pas à l'autre. Alors que si on a une approche plus douce, on s'intéresse à la personne, à son entreprise, à sa publication, à l'article qu'il a écrit, aux commentaires qu'il a fait à son intervention.
On le suit, on apprend à le connaître.
On apprend à le connaître, c'est comme dans une rencontre amoureuse. On apprend à connaître l'autre et on va l'approcher comme ça. Et à un moment, on pourra demander quelque chose ou même lui va nous le proposer directement.
Fabrice?
Moi, c'est exactement comme ça. Hein. C'est surtout de rencontrer des gens et partager mon expérience, soit d'entrepreneur, soit sur l'Internet des objets. Donc, c'est de provoquer des rendez-vous, solliciter beaucoup de gens. Et le réseau s'est construit progressivement comme ça.
Solange, vous, au sein du club, comment vous vous organisez justement pour que le réseau soit vivant et que les gens puissent networker? Alors, on sait, hein, quand on vient dans votre club, le club Efficience, qu'on est là pour bosser, pour networker. Mais comment le faire aussi de manière subtile? J'imagine que vous êtes d'accord avec Fabrice.
Je partage complètement le point de vue où l'humain est très important en fait dans l'approche qu'on va avoir lorsque on souhaite se faire aider. C'est ça. Hein. Donc si vous oubliez l'humain, de toute façon, la personne n'aura pas envie de vous écouter ni de vous aider. Alors au club, quand les gens viennent à nos événements, ils viennent faire du networking, donc c'est affiché. Je veux dire, ils ne viennent pas pour autre chose. Et en général, les gens vont réussir parce que non seulement ils viennent, ils reviennent, parce que voilà, beaucoup de gens viennent et reviennent. Et quand on vous voit une fois, on vous voit une deuxième fois. Après, ça crée du lien. Et les événements sont aussi faits lorsqu'on organise ce qu'on appelle les dîners d'affaires. Mmh. Ce sont voilà, des tables avec 5, 6 personnes, voire 10 personnes. Et ça permet pendant toute une soirée de discuter. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Ça permet de créer du lien, de discuter de ce qu'on fait.
Alors justement, quel genre d'événements créez-vous au sein du club? Parce que je sais qu'il y a les galas qui sont très festifs, chers aussi, qui ne sont pas accessibles à tous. Et puis après, il y a les rencontres plus networking.
Alors en fait, tout est networking.
D'accord.
Après, il y a toujours une excuse.
C'est l'emballage.
Voilà, c'est l'emballage. Voilà. Il y a une excuse pour faire du networking.
Ouais.
L'excuse, ce sont les actions qu'on fait hein, et qui sont toujours des actions soit dirigées vers les jeunes, et dans ce cas-là, ce sont nos bourses d'excellence ou les parrainages d'entreprise ou des rencontres plus business. Et là, ce sont les dîners d'affaires ou alors le gala qui, là, c'est 500 personnes. Et
c'est
effectivement,
quoi 250 euros, c'est ça?
Vous connaissez bien le prix. Hein. Donc, c'est 250 euros, effectivement. Évidemment, quand vous faites un événement à 250 euros, c'est sûr que tout le monde ne peut pas se l'offrir. Voilà. Donc, ça élimine, je dirais, beaucoup de gens. Mais ceux qui se l'offrent...
Finalement,
alors,
il faut investir, quoi.
Pas forcément, parce qu'on a ces... En réalité, on a deux événements payants. On a le gala à 250 euros et il y a les dîners d'affaires à 100 euros. Mais quand vous organisez un gala à l'Intercontinental Opéra et un dîner d'affaires au Marriott, forcément, déjà, il y a un coût pour l'organisation. Donc, on est obligé de le répercuter un petit peu. Et puis, sinon, le reste des événements sont gratuits. Ça permet à tout le monde de venir rencontrer d'autres personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui se déplacent, mais c'est tout le monde. Ça peut être vous, monsieur. Voilà, ça peut être vous. Voilà, ça peut être n'importe qui. Ou alors un jeune cadre.
Il ne faut pas être coopté.
Non.
Parce qu'il y a énormément de clubs select.
Non, il n'y a pas de cooptation.
Il faut de la...
Oui. Les événements sont ouverts et ça permet à tout le monde de venir discuter et d'accélérer sa carrière ou alors de faire du business. Mais c'est vraiment ouvert. Seuls les deux événements payants peuvent être un frein pour ceux qui ont peu de moyens. Mais sinon, le principe, c'est vraiment que tout le monde puisse se rencontrer et puis discuter, échanger et créer des synergies.
Samira Djouadi, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui nous écoutent ou aux moins jeunes d'ailleurs pour réseauter ? Comment réseauter ? Vous, à travers la fondation TF1, vous avez énormément de programmes. Vous avez un réseau maintenant important avec les chefs d'entreprise qui vous suivent parce qu'ils ont constaté évidemment le succès des opérations qui ont été mises en place. Vous êtes aujourd'hui, vous dites, pour l'ouverture du réseau. Un réseau, ça se partage.
Exactement. Pour moi, la notion de réseau, et d'ailleurs souvent je le dis quand je fais des interventions au public qui est en face, et je l'ai dit encore quand j'ai fait un TEDx il y a quelques mois, en disant le réseau, si c'est pour qu'il reste dans vos poches ou faire profiter juste les membres de votre famille, il n'a aucun intérêt quoi. Donc il faut en faire profiter. Oui, parfois on dit ouais, mais si je ne le connais pas je le coopte, mais peu importe quoi. À un moment donné, tant pis si ça n'a pas marché, si ça n'a pas été positif pour lui, c'est pas grave quoi. Et souvent je leur dis, vous verrez, vous dormirez encore mieux la nuit, parce qu'en plus cette personne, si jamais elle réussit grâce à votre porte qui a été ouverte, mais elle est reconnaissante à vie quoi. Vous allez la rencontrer dans 10 ans, c'est elle qui viendra vous voir et vous remercier alors que vous-même vous l'aurez oublié. Et je pense qu'en France on a ce gros souci de partage de réseau, on a besoin de le partager qu'à son propre environnement, voilà, autour de soi, etc. Alors que non, moi je pense que l'efficacité d'un réseau, c'est quand il est partagé à grandeur géante, sans être avare de se dire « Attends, mais moi j'ai galéré pour l'avoir, je vais quand même pas ouvrir la porte. » Voilà. Et ça, moi je trouve que ces gens qui parlent comme ça, c'est vraiment d'une absurdité.
C'est rédhibitoire pour vous. Ouais, Christelle de Foucault, vous êtes d'accord, j'imagine, sur cette question de transmission, sur cette bienveillance. D'ailleurs, on a eu l'exemple vivant de Carlin, qui nous appelait de Libreville, du Gabon, pour vous remercier pour cette mise en contact.
Alors moi je rejoins complètement Samira, je trouve que le réseau doit être ouvert. Moi je suis très ouverte, j'accepte beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. On n'ouvre pas assez la porte à nos jeunes alors qu'en fait ils sont l'avenir de notre société. Donc chaque jeune est toujours le fils de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. Ça nous revient toujours. C'est cette notion de donner sans obligatoirement recevoir. Moi j'ai beaucoup donné et finalement mes enfants ont aussi beaucoup reçu dans l'autre sens. Et le monde maintenant, c'est pas que la France, c'est un monde très ouvert grâce aux réseaux sociaux. Donc moi, j'ai beaucoup de monde d'Afrique, évidemment, dans mon réseau, et puis du monde entier. Mon fils vit au Mexique, j'en ai un autre qui vit en Chine. Et on doit avoir cette ouverture. C'est ce qui fait la richesse.
Hein. Encore une fois, ce que vous disiez tout à l'heure avec Fabrice, le retour à l'humain, cette bienveillance. Alors on peut faire des affaires, on peut faire du business, on peut rechercher à booster sa carrière, mais tout en restant très poli, en restant humain. Et le réseau, c'est aller vers la rencontre de l'autre aussi.
Oui, et c'est aller vers la rencontre de l'autre et puis se mélanger entre générations. Souvent, un jeune peut trouver un mentor. Il y a des gens dans les entreprises qui acceptent d'aider les jeunes. Il faut juste faire attention à l'approche. Moi, je peux en parler parce que j'ai un exemple. Souvent, je reçois beaucoup de CV. Mmh. Et il y a des gens qui me contactent pour la première fois, qui me disent « Bonjour madame, il paraît que tu t'y connais en CV, tu peux me corriger le mien ?» Première mise en contact. Et puis, le même jour, je reçois un CV d'un jeune. « Bonjour madame, j'ai visionné vos vidéos sur votre chaîne YouTube. J'ai vu votre TEDx. J'en m'en suis servi pour faire mon CV. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous pensez de mon CV ? À votre avis, lequel est-ce que j'ai envie de corriger ?
Celui qui vous touche le plus, c'est le deuxième, évidemment.
Voilà.
Parce qu'il vous parle de vous aussi.
Parce qu'il me parle de moi. C'est un peu comme dans la vente.
Il a fait l'effort.
Voilà, c'est un peu comme dans la vente, quand on va se rapprocher de son client, qu'on va écouter ses besoins, on ne lui vend pas le produit. On va attendre et écouter ses besoins et on va lui vendre une chose dans son produit. La mise en contact des réseaux, par les réseaux, c'est aussi ça. C'est rentrer en contact en montrant à l'autre qu'on s'intéresse à lui.
Alors, beaucoup de gens, Fabrice, Zera, confondent ou mélange un petit peu les concepts, le réseau avec la cooptation, le piston. Est-ce que pour vous, ce sont des choses qui n'ont rien à voir ?
C'est deux choses complètement différentes. D'un côté, c'est je suis pistonné pour rentrer quelque part.
Mais parce qu'on est déjà connu,
parce que quelqu'un connaît quelqu'un, donc ça c'est le vrai piston. Mm-hmm. Mais nous, quand on parle de réseau, c'est créer un réseau professionnel qui va nous permettre d'avancer.
En prenant en compte vos compétences,
Notre savoir-faire, notre compétence. Ça n'a rien à voir avec le piston. Donc, le réseau est capital pour avancer. Mmh. Et ce que je dis, hein, c'est qu'on a vraiment... on peut partir de zéro.
Solange Siandjé, vous comprenez qu'en Afrique, c'est vrai, souvent les gens vous disent « Mais non, mais c'est lié à la cooptation, le piston, il n'y a que ça qui marche. » C'est quoi justement la différence entre le réseau qu'on se crée et la cooptation et le piston?
Alors, la cooptation, on se fait coopter par quelqu'un et...
Ça fait partie du réseau.
Ça fait partie du réseau. Il y a des réseaux qui demandent une cooptation. Mm-hmm. Bon, au clavier piston, ce n'est pas le cas. Le piston, alors, c'est vrai que c'est deux notions différentes, en fait. Le piston peut faire partie du réseau, parce que quand vous avez un réseau, vous pouvez pistonner quelqu'un. Mais je pense que le piston a ses limites, parce que si vous pistonnez quelqu'un qui s'avère incompétent, non seulement... ça vous nuit à vous, parce que vous avez pistonné la mauvaise personne. Et puis finalement, cette personne, elle montrera qu'elle est incompétente. Donc ça ne fonctionne pas.
Mais si vous pistonnez quelqu'un qui a les compétences, ça devient du réseau.
Exactement, ça devient du réseau. Et donc le réseau a fonctionné.
Donc c'est très subtil.
C'est très subtil. Je pense que le piston fait partie, quelque part, de l'utilisation d'un réseau. Mais le piston ne suffit pas pour réussir.
Est-ce que le réseau peut jouer en notre défaveur, Samira Adjouaïdi?
Ah oui, bien sûr qu'il peut jouer en défaveur, parce que il suffit que on pistonne quelqu'un qui fait pas l'affaire ou qui n'a pas respecté aussi cette ouverture, ce contact, etc. Ça peut nous revenir en boomerang, quoi. Après, il faut être clair dans ses baskets et aussi dire que moi c'est ce que je fais, hein, quand je connais très peu la personne, je lui dis il faut l'aider. Maintenant, je garantis pas la compétence de la personne, etc. Mais il faut lui ouvrir la porte. Ça marche, on est tous contents. Ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il faut pas non plus à chaque fois que ce soit vécu comme des échecs, quoi. Hein. À un moment donné, ça peut ne
on
pas
se relève,
marcher, quoi.
C'est ce que disait Fabrice.
Voilà, il faut se relever. Et on repart et puis c'est reparti, etc. Moi, j'ai toujours ouvert les portes. Je continuerai à le faire parce que, c'est peut-être parce que j'ai fait de l'athlé, que j'ai fait des relais aussi, en disant que la transmission, elle doit se faire. Il faut qu'on. Et d'ailleurs, quand Patrick Lelay m'avait embauché à l'époque, m'avait dit Samira, n'oublie pas de faire rentrer les tiens, quoi. Et ça m'est resté gravé parce que c'est important. C'est important. On peut se tromper, mais c'est pas grave. Mmh. On apprendra et on comprendra pourquoi, etc. Et donc, on doit transmettre, on doit être capable de transmettre ce témoin et que la personne puisse, elle aussi, et d'ailleurs, je le dis souvent à nos jeunes de la fondation que nous prenons en alternance, en leur disant, écoutez, vous avez cette chance d'être chez nous pendant ces 2 années. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est que demain, quand vous serez en poste et que vous aurez des responsabilités, n'oubliez pas les vôtres. Mmh. C'est important, on doit continuer cette chaîne humaine pour continuer à exister, pour pouvoir propulser des jeunes qui, à travers vous, vont réussir parce que vous deviendrez un exemple pour eux, quoi.
Alors, Christelle de Foucault, vous partez tout à l'heure à Abidjan. Parlez-nous un petit peu de ce programme, du programme de ce forum. Et puis, avant cela, parlez-nous aussi des réseaux sociaux. Est-ce que ça a vraiment bouleversé la donne? Ou est-ce qu'il faut aussi avoir une stratégie bien claire? Parce que tout le monde a accès à énormément d'entreprises aujourd'hui via les réseaux sociaux. Mais comment bien faire les choses?
Alors, je parle du forum en dernier? Je conclue.
Oui, ouais, d'accord.
Donc les réseaux sociaux, en tout cas en recherche d'emploi, ont vraiment changé la donne. Ils sont intéressants aussi parce qu'on parlait des offres d'emploi. Les offres d'emploi représentent à peu près 20% du marché elles sont faites pour les gens qui rentrent dans les cases, pour les gens qui ont fait des études, qui ont vraiment des profils pile poil dans les cases. Quand on a un profil atypique, quand on vient d'ailleurs, on ne va pas être positionné, on ne va pas être dans les premiers choisis dans une offre d'emploi. Donc, le réseau permet aux gens différents aussi de pouvoir ouvrir les portes. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant d'être sur un réseau social? Alors moi, je parle de LinkedIn parce que c'est un réseau social professionnel.
Oui, on ne parle pas d'Instagram ou de Facebook,
non,
hein, on est d'accord.
Alors ça pourrait, on peut chercher un job sur Twitter, par exemple, ou on peut grâce à Facebook. Mais voilà, moi, je connais bien le réseau LinkedIn, donc je préfère parler de celui que je connais. Il faut savoir que les recruteurs, avant de recevoir quelqu'un, tapent à chaque fois le nom de la personne sur Google. Ils googlisent le nom, autant tomber à ce moment-là sur un profil professionnel LinkedIn. Et ensuite, LinkedIn, c'est une vitrine que chacun va décorer à sa façon et qui va permettre d'attirer aussi les recruteurs et surtout de rentrer en contact, comme on l'a dit, avec plein de gens. Et ce que je conseille aux jeunes, c'est à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, que ce soit un prof, un enseignant, que vous voyez quelqu'un à la télé, quelqu'un qui vous a donné envie de rentrer en contact avec lui, demandez-le en relation. Au pire, il ne vous acceptera pas. Mais osez rentrer en contact avec des gens qui vous inspirent, parce qu'ils seront peut-être dans cette dynamique dont on parle. Et par exemple, je fais une invitation aux jeunes. Imaginons des jeunes en Côte d'Ivoire qui sont à Abidjan, qui ne connaissent personne. Ce forum est gratuit. Ils viennent les 12 et 13 juillet. Ils vont rencontrer 5000 autres jeunes. Ils vont pouvoir parler avec 100 patrons d'entreprise. Ils vont créer leur réseau à partir d'un seul événement.
Et c'est intéressant parce que si ce forum ne vous avait pas contacté, peut-être que vous n'y serez pas allé.
Je ne serais pas retournée en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il n'existerait pas à l'heure actuelle. Donc je voudrais juste spécifier qu'il va être dans l'école ENSEA, établissement de statistiques et d'excellence en Afrique. Donc c'est à l'intérieur de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et c'est les 12 et 13 juillet toute la journée.
Samira, osez toujours avoir l'audace d'aller demander, comme le disait Christelle.
Exactement, il ne faut pas avoir peur, tant pis si ça marche pas, quoi. Moi, je dis souvent, moi, j'ai adoré prendre des portes et des murs parce que ça m'a renforcé, ça m'a construit, ça m'a permis de comprendre mes échecs, mes erreurs aussi.
Dites que vous n'aimeriez pas que vos enfants vivent les mêmes difficultés, malgré tout.
Les mêmes, non, mais ils en vivront d'autres, quoi. Donc, si je peux déjà, moi, leur épargner les miennes, eux vont forcément vivre d'autres difficultés que moi, je n'ai peut-être pas connues.
Et parce
que c'est une nouvelle génération, c'est la génération du digital que nous, on n'a pas connue, etc. Mais moi, si je peux leur éviter à eux et aux autres nos difficultés, mais moi je pense qu'il faut le faire, il faut qu'on soit généreux par rapport à ça, quoi. Il faut qu'on arrête de dire il n'a pas souffert comme moi, il faut qu'il souffre. Mais quelle souffrance, quoi. Moi j'ai pas de sac à dos à porter.
Solange, là-dessus vous êtes d'accord?
Là-dessus je suis d'accord.
Non seulement ça s'entretient,
ça c'est très très important. Ça se développe. Et puis un des éléments importants, voilà, je partage votre point de vue, c'est que il faut accepter qu'on vous dise non. C'est le principe même du réseau. Si vous écrivez et qu'on vous répond, on ne vous répond pas et que vous êtes vexé et que vous arrêtez, non, en fait, il faut accepter qu'on nous dise non. Continuer, et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, le principe de l'échec est un principe essentiel qu'il faut avoir, comprendre quand on veut développer un réseau.
Et l'échec permet de mieux réussir, c'est ce que vous dites, vous, Fabrice Zera, dans votre livre. Et vous, c'est vraiment une ode aussi à la France, les systèmes français qui vous permettent de réussir malgré tout. Et on ne le dit pas souvent, ça.
C'est un message positif. Moi, j'ai monté la société un mois et demi après la crise de Lehman Brothers. Donc, on était en pleine crise financière. Et pour être franc, quand j'ai monté la société, on m'avait tellement démotivé, découragé, que je me suis dit que si 6 mois plus tard on était encore là, ce serait un succès. Et en fait, il n'y a aucun message positif, et on a un écosystème d'aide que je décris dans ce livre, qui est exceptionnel et qui nous a permis de bénéficier de 3 millions d'euros d'aides diverses. Et c'est exceptionnel.
Félicitations, merci. Fabrice. Merci à vous tous. Merci pour vos analyses, vos témoignages, votre énergie. Vraiment, vous nous avez boosté ce matin. Merci Fabrice Zera, Solange Siyandje, Samira Djouadi, Christelle Defoucault. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Jérémy Bessé, Sigrid Azeroual, Elsa Olaï-Zola et notre ami Victor. Bon déjeuner à lui. Une question, la question de demain dans 7 milliards de voisins. Le piéton est-il devenu indésirable dans nos villes? À demain.